Les podcasts du Collège de France.
Alors aujourd'hui, cette leçon est une leçon clé du cours. C'est une leçon que je dirais, dont je dirais que elle va être un investissement pour la suite du cours de cette année et du cours de l'année prochaine. Donc, pendant ce cours, je vais définir ce que j'entends par les atomes d'un signal, les parcelles élémentaires de signal. Les parcelles quantiques. Alors, le plan de cette leçon, je vais commencer par, un rappel de ce que nous avons vu dans les leçons précédentes, et j'introduirai un peu la question fondamentale de cette leçon. Je vous parlerai des opérateurs quantiques qui caractérisent les signaux le long d'une ligne de transmission, qui est l'exemple le plus simple. Et puis, j'aborderai cette question des atomes du signal à partir d'une brève introduction à la théorie des ondelettes, qui sont absolument cruciales pour justement définir ces atomes de signal. Et puis, nous parlerons des états quantiques d'une ligne de transmission. Voilà, donc je vous rappelle ce qu'on a vu la dernière fois. Donc un concept clé, c'est la notion de flux de nœuds. Donc c'est une quantité assez abstraite qui caractérise en fait de façon commode les degrés de liberté d'un circuit. Alors je vous rappelle que la dernière fois, on avait vu que pour un circuit quelconque, on pouvait définir un arbre qu'il parcourait. On commence par définir une masse. Et cet arbre a la caractéristique qu'il visite chaque nœud du réseau sans faire de boucle. Et en intégrant les tensions le long de l'arbre pour arriver à un nœud particulier, on définit comme ceci le flux du nœud. Et c'est cette variable électrique qui est une intégrale de la tension qu'il est commode de quantifier. Alors nous avons vu aussi que cette variable de nœud, ce flux de nœud, a une quantité conjuguée au sens de la mécanique hamiltonienne, qui est ce qu'on appelle la charge de nœud, qui est une quantité un peu plus facile à appréhender. C'est partant d'un nœud n, la charge de nœud est la somme des charges qui partent de ce nœud vers toutes les capacités. On somme sur toutes les capacités. Si on sommait sur toutes les branches, on trouverait de toute façon une constante à cause de la loi de Kirchhoff. Donc, à partir de cette définition du flux de nœuds et de la charge de nœuds, on arrive à cette relation fondamentale qui décrit la non-commutation du flux et de la charge de nœuds. Donc ça, c'est la base de la quantification d'un circuit. Alors, nous avions vu aussi comment construire l'Hamiltonien du circuit une fois qu'on a défini les variables de nœuds. Donc, il faut écrire l'énergie de chaque branche exprimée comme fonction de ces variables conjuguées qu'on aura définies à partir de l'arbre, ici, de l'arbre du circuit. Donc, je vous rappelle que cet arbre du circuit, qui est dessiné en vert, ici, est équivalent à la donnée d'une jauge en électromagnétique. Donc, il y a une grande part d'arbitraire dans cet arbre. Et l'Hamiltonien qu'on obtient ici dépend de l'arbre choisi. Donc, pour expliciter un peu ce qui se passe, donc, les énergies de ces deux condensateurs, ici, C1 et C2, se retrouvent dans ce terme-ci et ce terme-là. Et l'énergie de cette inductance, ici, correspond à ce terme ici. Et cette inductance, ici, est spéciale, puisqu'elle n'est pas entre la masse et elle est un nœud, elle se trouve entre deux nœuds, donc elle fait intervenir cette différence de flux au carré. Maintenant, il faut bien se rendre compte que cette forme qui finalement engendre toute la dynamique du circuit, en fait, est très dépendante de l'arbre choisi. Je vous mets en garde contre des surprises possibles. Par exemple, le même circuit peut se représenter avec cet arbre-ci, où je décide de parcourir, de visiter ces nœuds ici d'une autre façon. Ce nœud et ce nœud-là sont parcourus par un autre arbre ici. Et les variables qui sont choisies maintenant, les variables de nœuds et donc le flux de nœuds et la charge de nœuds qui sont dénotées par des primes ici, en fait, ont une signification assez différente. Et l'hamiltonien, vous voyez, prend une forme qui apparemment est tout à fait différente de celle-ci. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc deux hamiltoniens qui ont l'air très différents peuvent en fait décrire le même circuit. Mais il sera toujours possible, évidemment, naturellement, de trouver une transformation canonique qui passera d'un hamiltonien à l'autre. Mais cette transformation n'est pas toujours, surtout au niveau de la forme algébrique, n'est pas toujours facile à reconnaître. En fait, il est souvent beaucoup plus facile de revenir au circuit et de recommencer cette recherche de l'arbre pour aboutir ces autres formes. Donc, en général, il est toujours possible de trouver un arbre dans un circuit, de trouver une représentation qui, pour un circuit linéaire, nous conduit à cette forme quadratique où on aura la somme des charges de nœuds au carré et un terme bilinéaire général faisant intervenir des produits de flux de nœuds. Je me limite pour l'instant donc à un circuit linéaire. Nous verrons que pour un circuit non linéaire, anharmonique, on peut avoir d'autres termes, mais limitons-nous à ce degré de complexité. Donc, comme vous le savez, il est toujours possible, lorsqu'on a un hamiltonien de cette forme, de trouver, en fait, d'introduire des coordonnées normales, que je dénote ici P et X, qui sont des combinaisons linéaires, ici des charges de nœuds et des flux de nœuds, de telle sorte que l'hamiltonien se met sous cette forme diagonale où les modes du circuit s'introduisent. Donc ça c'est une décomposition du circuit en mode normal et ces matrices A et B sont choisies naturellement de façon à ce que les règles de commutation des variables de mode soient les règles de commutation canoniques. Pour fixer un peu les idées, donc dans ce genre de transformation, on aboutit à des variables qui ont des dimensions un peu particulières, puisque la dimension de P, ici, c'est la dimension d'une tension, en fait, multipliée par la racine d'une capacité. Donc, je vous montre ça pour que vous ne soyez pas trop surpris par ce qui va venir par la suite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les dimensions des variables que l'on va choisir ont des fois des aspects un peu surprenants. Alors, ça c'est quelque chose aussi que vous connaissez tous, c'est qu'une fois qu'on a introduit ces modes normaux, ces variables normales, on passe aux opérateurs d'annihilation et de création de photons. C'est comme ça que les excitations quantiques interviennent. Donc j'ai écrit la façon dont les A et A croix s'expriment en fonction des X et de P, et des P, la transformation inverse est donnée ici. Et là, je vais parler d'un, d'une notation particulière qui n'est qu'une notation qui ne contient pas beaucoup de physique, mais qui est extrêmement pratique et dont je vais faire une grande utilité dans les leçons qui viennent. Alors, c'est la chose suivante. Donc, l'index mu, c'est un index de mode, c'est un index entier. On peut introduire un index qui est à la fois un entier relatif, donc m, et qui finalement met sur le même pied les opérateurs d'annihilation et de création. Donc, un opérateur de création, ça sera un opérateur de type AM, mais avec un M qui est un entier négatif. L'avantage de cette... Vous verrez plus tard l'avantage de cette notation. Mais en tout cas, on a un bénéfice immédiat ici, c'est que les relations de commutation qui s'écrivent sur trois lignes, les relations de commutation du circuit qui s'écrivent de façon assez compliquée, ici prennent une forme en une égalité, on traite toutes les relations de commutation. Suivant les valeurs de toutes les combinaisons de M, des positives et négatives, permettent de décrire toutes les relations de commutation. Et on peut donc écrire l'hamiltonien du circuit dans cette décomposition en mode sous cette forme ici classique, faisant intervenir A croix et A, ou simplement ici une forme dans laquelle on n'a que des opérateurs qui ont l'air d'opérateurs d'annihilation. Et là, dans ces hamiltoniens, je soustrais l'énergie de point zéro. Alors, quelque chose de très important, c'est que nous allons introduire plus tard des éléments non linéaires dans les circuits, les éléments Josephson, et ces éléments produiront d'autres termes supplémentaires. Ici, donc, on n'a que des termes quadratiques. Lorsqu'on introduit ces éléments non linéaires, on va avoir des termes d'ordre supérieur. Et le premier terme qui intervient ici, c'est un terme d'ordre 3 qui s'appelle en optique quantique le mélange à trois ondes. On peut le décrire ici comme une anharmonicité cubique du potentiel. Ce petit schéma vous dit que ce terme, en fait, finalement, permet une interaction où, par exemple, une excitation se décompose en deux excitations, qui est interdit, ce processus qui est interdit dans un circuit linéaire. Et nous irons aussi jusqu'au terme quartique, ici, où quatre opérateurs interviennent. Par exemple, deux excitations se combinent pour en former deux autres. Dans cette partie du cours, on traite ces interactions entre excitations comme une perturbation. C'est-à-dire que, en fait, cette constante grande zeta, ici, qui a les dimensions d'une fréquence, on va supposer que ces constantes qui décrivent le circuit sont toujours très petites par rapport aux fréquences de chaque mode. Donc, on traite finalement cette anharmonicité en perturbation, ce qui simplifie beaucoup la description. Je voudrais insister sur le fait que, en fait, cette hypothèse ne signifie pas que le circuit ne va pas être non linéaire. Il faut distinguer cette description de l'anharmonicité de ce qui s'appelle la non-linéarité quantique. La non-linéarité quantique se produit lorsque la durée de vie des états, le taux de relaxation des états qui sont décrits par ces gammas, est beaucoup plus petite que ces constantes d'interaction non linéaire. Lorsque vous êtes dans ce régime, vous avez un système qui est peut-être faiblement anharmonique, mais qui peut être très non linéaire. C'est la situation, par exemple, de couplage forte en, en électrodynamique, en quantique, en cavité. Une façon de caractériser ceci, c'est de dire que les excitations se combinent en fait à un taux qui est plus rapide que le taux avec lequel elles meurent. C'est ce que décrit cette inégalité. Donc, je voudrais aborder en fait la remarque que m'avait fait la dernière fois Hélène Bouchia. Donc, la raison pour laquelle, au début du cours, j'ai dit que les jonctions Josephson étaient les seuls éléments non linéaires qu'on connaissait pour ces circuits quantiques, se comprend par cette relation. Tout élément d'un circuit est non linéaire à un certain degré. Quand vous prenez n'importe quelle capacité, si vous mettez suffisamment de tension, l'énergie ne devient non quadratique par rapport à la tension. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on a une anharmonicité au niveau d'un seul photon. Ce que décrit cette relation, finalement, c'est qu'au niveau d'un seul photon, les effets non linéaires sont importants. Ce qui n'est pas du tout le cas, justement, dans un circuit classique ordinaire, où les effets non linéaires ne se manifesteront que lorsque vous aurez un très, très grand nombre, un nombre souvent macroscopique de photons. Donc là, c'est ce qu'on recherche, c'est des effets non linéaires avec un ou, à la rigueur, quelques excitations. Voilà, donc... maintenant, nous allons passer, ces remarques étant faites, nous allons passer un circuit, disons, élémentaire, distribué, la ligne de transmission. C'est-à-dire, la ligne de transmission, vous pouvez la voir comme un simple fil. Si vous voulez faire un parcours en ligne droite dans votre circuit, vous pourriez mettre un simple fil. Mais le problème du simple fil, c'est que vous êtes très sensible à ce qui peut se passer dans les tournants. Vous aurez des variations d'impédance. Le simple fil a une relation de dispersion tout à fait linéaire, mais vous pouvez avoir des réflexions des signaux, et pour éviter les réflexions des signaux, on munit ces fils toujours d'une gaine. Donc en fait, ce que je traite là, c'est plutôt le câble coaxial, où vous avez donc une impédance, une inductance de ligne. Ça, ces inductances représentent l'énergie magnétique du fil de la ligne de transmission, et ces capacités représentent la capacité entre la ligne et la masse. Donc, on avait vu ce modèle la dernière fois. Avec ces cellules discrètes, on peut écrire les équations dynamiques du circuit, c'est très facile. On passe à la limite du continu en prenant la longueur d'une cellule, en la faisant tendre vers zéro, et on aboutit à ces équations qui décrivent la propagation de la tension et du courant le long de la ligne. Alors, je vous fais remarquer que tension ici et courant ne sont pas aux bornes du même élément. La tension est prise aux bornes des capacités, le courant est pris aux bornes des selves. Donc, lorsqu'on résout ces équations, on trouve qu'on peut décomposer les signaux en deux ondes, en deux types d'ondes, les ondes qui se propagent vers la droite et les ondes qui se propagent vers la gauche. Ici, ces amplitudes d'ondes sont choisies de manière à ce que la dimension de l'onde au carré vous donne le flux d'énergie transmis. Donc, A au carré, c'est à la dimension de watts. Et ces amplitudes d'ondes sont reliées aux tensions et aux courants le long de la ligne de la façon suivante. Donc la tension se décompose en une tension des ondes se propageant vers la droite et se propageant vers la gauche. Il y a un signe moins ici qui intervient quand on passe des tensions au courant. Et dans cette représentation des ondes, les solutions sont des ondes progressives. Et donc, deux constantes interviennent qui sont très importantes, qui sont l'impédance de la ligne, qui est le rapport entre la capacité et l'inductance et la capacité par unité de longueur, et la vitesse de propagation qui fait intervenir la combinaison orthogonale. Donc la question qui va nous occuper, jusqu'à présent était une longue introduction, la question qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est comment on quantifie ce système électrique qui est distribué. Le fait que le système électrique soit distribué et non pas construit à partir d'éléments discrets complique un peu les choses. Et il est important de bien comprendre les outils qui permettent d'aborder cette question un peu des éléments continus. Donc, je vais commencer par décrire les opérateurs, la quantification de ces opérateurs de la ligne de transmission. Alors, ça fonctionne un peu comme dans un circuit discret. Finalement, la variable fondamentale va être l'équivalent d'une variable de flux de nœuds. Donc, en chaque point de la ligne, on va pouvoir définir un flux. Et ce flux, on peut le concevoir de la façon suivante. Donc, on prend un point, on définit une masse quelque part, sur cette ligne, et on prend un circuit qui est dessiné en vert, où on va finalement, à partir de ce point, revenir en arrière, un bout de la ligne, et puis parcourir la ligne de transmission depuis cette extrémité jusqu'à ce point X, ici. Et donc, cet arbre, ici, continue, cette fois-ci, définit une aire qui est dessinée en bleu, ici, bleu-vert. Et finalement, ce flux de nœuds continu, ici, c'est le flux du champ magnétique dans cette aire. Donc, vous voyez, il y a une part de physique réelle. On prend bien le flux d'un vrai champ magnétique, mais il y a une part d'arbitraire, une part de jauge dans cette définition du flux, puisque ce flux va un peu dépendre du point où la façon dont on va définir cet arbre. Donc, ce flux de nœuds est donc une double intégrale sur la tension et sur le champ électrique, finalement, le long de cette... Donc, on peut, si vous voulez, en utilisant les équations de Maxwell, reformuler ce flux de nœuds en termes d'une intégrale, d'une double intégrale sur le champ électrique le long de la ligne et sur le temps. À partir de... Pour se rassurer sur ce processus de quantification, on peut écrire la densité lagrangienne du circuit. Donc, qui va faire intervenir l'énergie cinétique ici, qui fait intervenir la tension le long de la ligne, la dérivée du champ du flux par rapport au temps, et le rôle de l'énergie potentielle ici est donné par l'énergie magnétique. Donc, à partir de ces deux termes, on peut qui définissent le lagrangien, on peut trouver le moment conjugué de la variable de champ, qui est ce flux, ici, et qui, en fait, physiquement, se trouve être la densité de charge le long de la ligne. C'est le produit de la tension, ici, fois la capacité par unité de longueur de la ligne. Donc, ce moment conjugué, pi de x du champ, c'est non pas une charge sur une capacité, comme dans un circuit discret, mais c'est une densité de charge, une densité linéique de charge. Voilà comment s'introduit la quantification. On va dire, c'est un peu un postulat à ce niveau, que les variables phi et pi vont obéir aux règles de commutation des champs. On est confronté à quelque chose de nouveau et assez dérangeant, c'est que le commutateur de ces variables n'est pas un, simplement un 1 ou 0, comme pour les modes discrets, mais fait intervenir cette fonction delta qui pose quand même quelques problèmes d'interprétation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette fonction delta, dans les commutateurs? Bon, on peut se ramener à de la discrétisation. Pour se rassurer, on peut se ramener à rediscrétiser le circuit et finalement considérer que la charge sur cette capacité discrète, c'est pi fois cet petit élément de longueur, delta x, que là je prends fini, petit mais fini. Et pour ces éléments discrets, je peux écrire des relations ordinaires de commutation. Pardon, là, j'ai fait une erreur. Ça devrait être IH bar et pas 1. En tout cas, ce qui compte, c'est que cette quantité ici est finie. Et lorsqu'on va prendre, on comprend que lorsqu'on va prendre la limite delta x tend vers 0, eh bien, ces relations de commutation, lorsqu'on divise par delta x, vous donner cette fonction delta. En tout cas, une fois qu'on prend la transformée de Legendre du Lagrangien, on aboutit au Hamiltonien qui se met sous cette forme continue. Il y a un autre bug ici, donc c'est pas k qu'il faut lire, c'est x. On va arriver au k tout à l'heure. Alors, ces règles de commutation de la ligne de transmission, on peut se dire qu'elles sont parachutées. Ces flux de nœuds, ces charges par unité de longueur, est-ce que vraiment, c'est des grandeurs qui sont macroscopiques, est-ce que finalement ces règles de commutation sont en accord avec la théorie microscopique de l'électrodynamique quantique qui impose des relations de commutation non pas à ces variables macroscopiques mais aux variables microscopiques locales du champ électromagnétique? Alors en fait, pour une ligne de transmission simple, comme une ligne micro-ondes composée de deux pistes, dont ce qui s'appelle un strip line, une micro-onde, eh bien, on peut effectivement montrer que ces règles de commutation des champs sont tout à fait compatibles avec les règles de commutation de l'électrodynamique quantique. Alors, dans ce système, les calculs sont suffisamment simples. Dans cette ligne, on va considérer le champ électrique entre ces deux plaques, donc c'est ce champ E ici, et le champ magnétique qui est donc parallèle aux plaques, qui décrit le champ magnétique dû au courant dans ces fils. Et là, ici, on va considérer deux points que j'ai représentés ici en bleu. Le champ magnétique ici est considéré donc à ce point ici en bleu, et le champ électrique donc dans ce point générique ici en jaune. Alors, on peut écrire le flux en fonction d'une intégrale sur le champ magnétique contenu entre ces deux fils, ici. Alors, c'est une double intégrale, c'est une intégrale de surface. Voilà le flux de nœuds. Et la charge par unité de longueur, en fait, de la ligne, peut s'exprimer sous la forme d'une intégrale simple dans la direction ici Z du champ électrique. Là, on utilise le fait qu'il y a une relation entre la charge de surface E est tout simplement égale à sigma sur epsilon. C'est cette relation que j'utilise ici. Et en ouvrant un livre d'électrodynamique quantique, je trouve la relation de commutation entre B et E. C'est une relation un peu compliquée qui fait intervenir trois fonctions delta et cette dérivée par rapport à x. Mais enfin, c'est quelque chose de parfaitement bien connu. Et lorsque finalement je calcule le commutateur entre phi et pi, donc en multipliant ces intégrales et en finalement faisant intervenir cette relation, on est très, très heureux de voir qu'effectivement, cette relation est bien vérifiée. Donc, ces relations de commutation entre variables finalement macroscopiques qui paraissent un peu parachutées sont quand même une conséquence des relations fondamentales de commutation des champs en électrodynamique quantique. Alors, il faut maintenant passer aux modes normaux. Et pour cela, il faut introduire les transformées de Fourier des champs, les transformées de Fourier par rapport à X. Donc on introduit ces variables phi de K. K va être le vecteur d'onde du champ. Alors j'introduis ici une autre notation qui va nous servir dans tout le cours. Il est très commode lorsqu'on passe d'une variable, d'une fonction, par exemple de la position, et nous verrons que on va appliquer ça aussi au temps, mais quand on parle d'une fonction dans l'espace direct, d'introduire sa transformée de Fourier en utilisant tout simplement des crochets droits ici pour distinguer la transformée de Fourier de la fonction d'origine. Ça simplifie, on manque toujours de symboles dans tous ces calculs et ce raccourci est très commode. Donc ça permet de préserver la forme, le symbole de la fonction. Ce qui est important à ce niveau, c'est de réaliser que lorsqu'on passe dans l'espace réciproque, les nouveaux opérateurs que l'on définit, les opérateurs qui sont les transformés de Fourier des champs, ne sont plus hermitiens. En particulier, par exemple, phi croix ici, c'est en fait le phi de moins k. Donc phi et phi croix de k ne sont pas identiques. Par contre, les relations de commutation, on peut se convaincre que les relations de commutation dans cet espace réciproque ont tout à fait la même forme. Et maintenant, en réexprimant l'hamiltonien de la ligne en fonction de ces nouvelles variables, on trouve un hamiltonien qui est diagonal. Donc on a réalisé la même chose que pour finalement le circuit avec des modes discrets. La difficulté ici, c'est que K ici est un index continu. Et là, je vous rappelle la relation de dispersion de la ligne de transmission qui est très simple. Donc la fréquence d'un mode K, et c'est tout simplement K fois la vitesse de propagation qui, dans l'exemple que j'ai choisi ici, est une constante. Parce qu'on va, dans la limite de la ligne continue, non dispersive, Vp ici est une constante, mais on peut tout à fait généraliser ce formalise à un cas où la vitesse de propagation dépend de K. Alors, comme on l'a fait pour le circuit avec des modes discrets, on introduit maintenant les opérateurs de création et d'annihilation, mais qui sont là, je le rappelle, la difficulté provient du fait que cet indice ici, K, est un indice continu. C'est une difficulté supplémentaire qu'on doit absolument maîtriser. Vous remarquerez ici aussi que les constantes qui définissent cette transformation sont un peu différentes que dans le cas des modes discrets, puisque en plus de la fréquence, ici intervient la capacité par unité de longueur de la ligne. Si on représente la relation de dispersion, c'est-à-dire l'énergie oméga, la fréquence des modes oméga en fonction de K, on a cette ligne ici qui fait intervenir la valeur absolue de K. Et chaque opérateur, si on prend un certain K0, chaque opérateur ici, de création, d'annihilation, excusez-moi, à un jumeau qui correspond à, qui a la même fréquence et qui correspond à une onde qui se propage dans l'autre, dans le sens inverse. Si par exemple, donc ici, un cas zéro positif correspond à une onde se propageant vers la droite, alors qu'un cas négatif correspond à une onde se propageant vers la gauche. Alors, ce qui est intéressant, c'est de compléter un peu cette relation de dispersion pour faire intervenir des fréquences miroirs qui sont négatives. Alors, c'est un peu le même truc que j'ai présenté pour les modes discrets, c'est-à-dire qu'on va compléter finalement cette description en faisant intervenir des fréquences négatives. Ça va être très commun. Donc, on va réorganiser finalement le diagramme de cette façon suivante. On va d'abord considérer que la partie droite du diagramme, pour les cas positifs, correspond à des ondes donc, qui se propagent vers la droite. Donc, on va munir les opérateurs d'une petite flèche ici, qui signifie « va vers la droite ». Et puis, les cas négatifs, eux, correspondront à cette flèche qui va vers la gauche. Et un opérateur d'annihilation, ici, à considérer comme ayant un indice de fréquence positif, on va faire correspondre un opérateur avec un indice de fréquence négative qui n'est rien d'autre que, finalement, l'opérateur de création. Alors, on peut être dérangé par le fait que l'annihilation correspond à une fréquence positive et la création correspond à une fréquence négative, mais les signes des phases choisis en mécanique quantique pour l'évolution temporelle, en fait, font que ceci est tout à fait normal, puisque si on prend l'équation d'Heisenberg pour l'opérateur à croix, eh bien, on trouve un signe moins ici en face de 1. Donc, c'est dans le fond assez normal qu'un opérateur de création soit attaché à un indice de fréquence négative. Alors, l'intérêt donc de ce prolongement vers les fréquences négatives, pour l'instant, l'intérêt, c'est que ça rend les règles de commutation extrêmement faciles à écrire. Donc, une longue liste ici de règles de commutation se résume en quelques symboles. Mais l'avantage surtout, c'est que ces fréquences négatives, on va voir par la suite, sont tout à fait physiques. C'est-à-dire que les fréquences positives vont correspondre à des processus en fait d'émission, alors que les fréquences négatives vont correspondre à des processus d'absorption. En mécanique quantique, absorption et émission ne sont pas symétriques. Et finalement, cette distinction entre les fréquences positives et négatives, qui n'a pas de sens pour un ingénieur électricien non quantique, en fait, a tout à fait un sens pour ces circuits quantiques. En fait, nous verrons par la suite qu'on peut fabriquer effectivement un analyseur de spectre qui analyse le circuit et qui est capable de distinguer les fréquences positives des fréquences négatives. Bon, c'est pas un instrument qui est vendu commercialement, mais c'est quelque chose qu'on est capable actuellement de réaliser, par exemple en utilisant des circuits basés sur les boîtes à paires de Cooper. Donc, avec ces conventions, et donc je répète, pour l'instant, ces conventions, cette leçon est assez formelle, mais c'est un investissement qui va nous servir par la suite. Donc, on écrit l'Hamiltonien sous cette forme, qui est donc une forme de normale, avec les opérateurs décrivant les ondes se propageant vers la droite et les ondes qui se propagent vers la gauche et qui sont donc complètement indépendantes. On a découplé donc le travail qu'on a réalisé jusqu'à présent, c'est de découpler les ondes allant vers la droite de celles allant vers la gauche, et on a découplé les différentes fréquences. Je rappelle aussi que la convention qui est choisie ici pour cet Hamiltonien, c'est qu'on a soustrait l'énergie de point zéro, et donc l'Hamiltonien opérant sur le vide donne zéro. Et donc, il reste une difficulté. Tout ceci est très joli, mais en fait, le gros problème, c'est que cet indice oméga est un indice continu. Et ça, c'est extrêmement gênant, parce que finalement, quand on fait une mesure, on mesure finalement une quantité qui est discrète. On va sonder un point du circuit. On ne voit pas du tout comment mesurer finalement à quoi correspondent ces amplitudes correspondant à une fréquence continue. Donc là, l'outil qui permet de résoudre ces problèmes, c'est l'outil qu'on peut appeler les ondelettes, qui vont nous servir énormément dans ce cours. Et j'avais parlé un petit peu d'ondelettes quand j'avais parlé finalement de la formule de Landauer l'année dernière. Et là, je vais approfondir un peu cette notion. Donc, l'idée, c'est qu'on a des fonctions, finalement, des signaux qui ont une énergie finie, qui correspond à des fonctions qui sont normalisables. Le problème donc de ces ondes K, c'est qu'elles ne sont pas normalisables. Donc on cherche à trouver finalement des signaux les signaux réels en fait ont toujours une énergie finie. Et c'est un théorème. On peut décomposer ces signaux d'énergie finie toujours sur une base discrète. Donc, il peut éventuellement avoir un nombre infini d'éléments, mais un nombre infini comptable d'éléments. C'est-à-dire, on peut indicer avec un indice discret tous les éléments de cette base. Donc, cette base, qui est une base d'ondelettes, obéit à cette... à cette relation d'orthonormalité. Donc, ce que j'appelle une fonction psi ici, ce n'est pas du tout une fonction d'onde, c'est simplement une fonction de base qui décrit les signaux se propageant le long de la ligne. C'est-à-dire qu'un signal à un point donné x sera une fonction du temps, et cette fonction du temps, je vais la décomposer dans une base formée par ces fonctions psi, qui dépendent de deux indices. Un indice M qui, en fait, va spécifier la fréquence moyenne de cette fonction de base, et un indice P qui spécifie un peu sa localisation temporelle. Donc, un exemple classique de telles ondelettes sont, par exemple, les ondelettes de Shannon, qui sont basées sur la fonction sinus cardinal. Donc, c'est basé sur une enveloppe de cette forme sinus x sur x qui est modulée à une fréquence ici qui est spécifiée par l'indice m. Alors, la fréquence de modulation varie par pas, et m décrit le nombre de pas, et b, qui est une bande passante élémentaire, et correspond à ce pas en fréquence. L'indice P ici correspond au décalage en temps de l'ondelette, et ce décalage en temps est lui aussi discret et fait intervenir cette durée tau, la durée finalement qui va séparer deux ondelettes successives en temps. Donc par exemple, là j'ai représenté deux cas particuliers. Le cas où on a par exemple l'indice 7,1, on a donc 7 pas en fréquence et 1 pas en temps. 1 pas en temps, c'est facile à voir, on s'est décalé d'une unité ici, vers la droite par rapport au zéro. Et finalement, les 7 pas en fréquence, ça, c'est le fait qu'on module ici, si vous comptez, vous aurez 7 oscillations ici pendant une période du sinus cardinal. Donc, en transformé de Fourier, c'est un peu plus facile de voir ce que ces ondelettes de Shannon représentent. C'est simplement, ça correspond à un filtre rectangulaire en fréquence. Donc, la largeur en fréquence de ces ondelettes, c'est B. Et pour avoir une base orthogonale complète, eh bien, il faut qu'on ait la relation B fois taux égale 2π. Donc, si on choisit un pas en fréquence ici, ça va nous imposer le pas en temps. Donc là, je représentais l'ondelette 7, 0. Donc 0 ici correspond à aucun décalage. Ça serait l'ondelette qui serait ici localisée au temps 0. Si je déplace cette ondelette, c'est-à-dire si je prends cette forme violette ici en transformée de Fourier, j'aurai une modulation à l'intérieur de la porte. On voyait qu'on peut, comme ceci, construire toute une base qui est composée d'éléments d'indices discrets. Et c'est important de comprendre qu'il y a deux indices, un indice à la fois pour la fréquence moyenne, et un indice pour la position temporelle, la position moyenne. Alors, toutes ces ondelettes, finalement, représentent un pavage de l'espace constitué par le temps et la fréquence, qui sont incompatibles, en quelque sorte. Cette incompatibilité est exprimée par le fait que ce décalage en temps, ici, taux, fois le décalage en fréquence, sont contraints. Le produit doit être donné par 2π. Donc, c'est extrêmement commode. On peut finalement représenter n'importe quelle fonction du temps dont l'énergie est finie. Ça, c'est une hypothèse très importante. À partir de chacune de ces ondelettes qui, finalement, correspondent à une brique dans ce pavage. Alors, un élément très important, c'est que une brique possède une brique jumelle elle aussi, mais c'est un autre sens que la gemellité correspondant à K moins K. K moins K, c'est deux ondes indépendantes. Là, les ondelettes correspondant à un M positif et les ondelettes correspondant à un M négatif, en fait, sont conjuguées. Ce sont des paires de fonctions conjuguées. Ça représente les deux degrés de liberté d'une seule ondelette. Ça correspond à donc deux amplitudes réelles. On peut donner une amplitude complexe pour une brique ou deux amplitudes réelles pour cette paire de briques. En fait, la combinaison symétrique de l'amplitude correspondant à ces deux briques peut s'interpréter comme la composante en phase du signal définie par cette ondelette, et la combinaison antisymétrique, c'est la composante hors phase ou en quadrature. Donc là, finalement, une fois qu'on a défini ce qu'on appelle ces modes temporels du champ sur la ligne, on a défini un peu ce qu'on appelle les atomes de signal. C'est ces atomes de signal, c'est ça qu'on va quantifier. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que maintenant, ces boîtes qu'on a définies doivent être remplies par une amplitude, et ces amplitudes sont des amplitudes quantiques, vont être décrites par des opérateurs. Donc, il y a ce qu'on appelle une deuxième quantification. En quelque sorte, réaliser qu'un signal d'énergie finie se décompose en utilisant ces boîtes discrètes, c'est ce qu'on peut appeler la première quantification du champ, une quantification finalement classique, tout à fait connue par les ingénieurs électriciens micro-ondes. Et dans ce cours, l'élément de nouveauté, c'est qu'on introduit une deuxième quantification, c'est que le contenu, l'amplitude, les composantes sur ces ondelettes sont des variables quantiques. Alors comment ? Eh bien, Si on utilise une intégrale sur ces opérateurs d'annihilation continue, qu'on multiplie, qu'on convolue avec la forme de l'ondelette, eh bien, on va obtenir maintenant un opérateur d'annihilation tout à fait discret. Il a deux indices, mais c'est des opérateurs tout à fait discrets. Et maintenant, si on continue avec notre convention que j'ai déjà introduite, c'est-à-dire qu'on va appeler l'opérateur de création correspondant au mode MP par cet indice, on va utiliser l'indice, ce truc de l'indice négatif, on peut écrire les relations de commutation de ces opérateurs correspondant aux éléments du signal, et on a ici une version tout à fait discrète, tout à fait pratique de la quantification du signal. Donc ça, c'est le transparent fondamental de cette leçon. On peut dire par exemple que psi, dans le fond, ça va être effectivement la fonction d'onde du photon. Alors, j'ai choisi dans mes petits dessins là une base particulière d'ondelette. Il faut bien comprendre que cette base peut être très variable. On peut prendre des boîtes, on peut prendre un pavage avec des boîtes extrêmement allongées qui finalement tendent le mieux possible vers des fréquences bien précises, mais il faut se garder de faire de donner à B' la valeur zéro. Il faut imaginer que si on veut avoir des fréquences bien précises, il faut des boîtes ici extrêmement allongées et très très fines en relative. On peut s'intéresser plutôt à des signaux très très bien définis dans le temps, donc prendre des boîtes allongées, très allongées dans le sens vertical, qui vont faire intervenir de très grandes bandes passantes et qui vont être très localisées dans le temps. Et là, de la même façon, il faut se garder aussi de prendre taux prime est strictement égal à zéro, mais considérer toujours une boîte finie. Et aussi, il y a d'autres formes de pavage possibles, très intéressantes. Donc, par exemple, toute cette science des ondelettes est extrêmement bien décrite dans ce livre que je vous recommande de Stéphane Mala. Cette base ici d'ondelettes qui a une propriété d'invariance d'échelle est très pratique. En fait, lorsque on diminue la fréquence de ces boîtes, eh bien, leur temps s'allonge. Ce qui fait que la fréquence, la bande passante relative de chaque ondelette est constante. La bande passante relative, c'est une notion qu'on va beaucoup utiliser par la suite. La bande passante relative, c'est le rapport entre la bande passante, la largeur ici de la bande, divisée par la fréquence minimum. Dans ce découpage, dans ce type de pavage, la bande passante relative reste constante. C'est quelque chose que vous connaissez très bien, ça, puisque c'est en fait la notation musicale est basée sur cette idée d'ondelette, puisque finalement l'échelle est logarithmique pour la fréquence dans une partition. Donc finalement, mes petits dessins, mes petites boîtes dans l'espace temps-fréquence correspondent tout à fait à la notation musicale. Il y a juste une petite différence, c'est que dans la notation musicale, on indique la durée d'une note, non pas par la largeur du symbole, mais plutôt par sa forme. Mais finalement, cette idée d'une description à la fois fréquentielle qui réalise un compromis entre fréquence et temps est tout à fait, finalement, est bien connue. Alors, je voudrais faire aussi une remarque très importante, c'est qu'il ne faut pas confondre finalement les boîtes correspondant au pavage dans cet espace fréquence-temps donc qui sont données, qui ont une aire qui vaut 2 pi, avec ce qui résulte du principe d'incertitude. Donc on peut définir une autre boîte pour les ondelettes, la boîte d'incertitude, à partir du second moment en temps, que j'appelle, dont la racine, donc cet écart-type, je l'appelle delta t, et j'appelle aussi delta oméga l'écart-type de l'ondelette en fréquence. Donc le principe d'incertitude pour les signaux nous dit que ce delta, le produit delta t et delta oméga est supérieur à 1,5. Donc l'air de la boîte, puisque finalement cet écart-type, c'est en fait la distance du centre aux extrémités de la boîte. Donc l'air de cette boîte d'incertitude, en fait, doit être supérieur à 2. Alors on peut se demander s'il est possible d'avoir une base d'ondelettes dont les ondelettes seraient tellement fines qu'elles obéiraient au principe d'incertitude, avec une incertitude, en saturant ce principe d'incertitude, en ayant une incertitude minimale. Et en fait, c'est impossible. Si vous prenez comme base d'ondelettes des gaussiennes, donc qui auraient cette propriété de minimalité, en fait, vous ne pourrez pas avoir une base complète, discrète. Vous êtes forcé d'avoir une base continue et qui sera donc surcomplète. Donc, on ne peut pas tout avoir. On peut avoir des ondelettes qui sont relativement localisées en temps et en espace, raisonnablement, qui sont en fait, elles peuvent être continues, à la fois en temps et en fréquence, mais on ne peut pas quand même tout avoir. On ne peut pas demander aussi qu'elle ait une incertitude minimum. Donc, par exemple, le cas de la fonction sinc tout à l'heure, que j'ai décrit tout à l'heure, correspond effectivement en fait à une incertitude en temps qui a tendance à diverger. Voilà. Alors, pour conclure sur cette question des bases d'ondelettes, c'est que ces bases d'ondelettes sont un peu comme un système de coordonnées. C'est une façon de représenter les signaux qui sont extrêmement pratiques. C'est un peu comme en géométrie, ça correspond à un choix d'un système de coordonnées. Donc, il a une grande part, ce choix du système de coordonnées, une grande part d'arbitraire. Mais toutefois, il est sage, comme en géométrie, de prendre le système de coordonnées le plus adapté au système. Et là, on sera confronté en fait à la même chose. On va les sources ou les détecteurs dans le système quantique considéré vont imposer une base privilégiée. Donc, on a intérêt à penser, à réfléchir au circuit dans la base d'ondelettes qui sont imposées par justement ces conditions un peu limites données par les sources et les détecteurs. Il y a aussi un autre critère qui permet de choisir la base d'ondelettes idéale, enfin optimum, c'est la base qui donne une description du système avec le minimum d'informations. Si on cherche à minimiser l'information qui décrit le système, eh bien, ce critère permet de définir une base d'ondelettes privilégiée. Donc, en quelque sorte, la base d'ondelettes qui rend le système, qui finalement minimise les corrélations entre les différents modes, ça sera une base privilégiée. Je vois que j'arrive à la fin du temps imparti. Donc là, je ne vais pas avoir le temps de décrire finalement les états de la ligne. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. J'aborderai ces questions donc la semaine prochaine. Nous attaquerons aussi quelque chose de très important, puisque On va utiliser ces résultats sur la ligne de transmission, qui finalement est l'élément dissipatif fondamental, pour traiter le cas d'un système quantique dissipatif, un circuit LC couplé à une résistance qui va être traitée comme une ligne de transmission, comme je l'ai indiqué donc dans ce cours, ou comme un système, un bain d'oscillateurs harmoniques. Nous allons voir qu'il y a une correspondance intéressante entre ces deux descriptions, l'une qu'on peut qualifier d'hamiltonienne et l'autre l'autre qu'on peut qualifier en termes de, disons, de théorie de la diffusion. Et le lien entre ces deux descriptions de la dissipation quantique nous donnera des outils très précieux pour la suite du cours. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.